Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Ils sont trois. Trois à goûter chaque jour à la montagne pour ce qu'elle a de plus authentique. Cette montagne, ils la vivent différemment, avec singularité et passion.
Tant qu'on met ses chaussures le matin, qu'on part, qu'on a froid aux doigts et qu'on va sur les chemins et qu'on a quelqu'un au bout de sa corde et qu'on rentre fatigué le soir, on gagne son existence. Dès que ça glisse, c'est magique. On s'affranchit des distances, du temps. La gravité joue avec nous et pas contre nous.
Les déviations vous amènent aujourd'hui à la rencontre d'un guide de haute montagne, passionné et habité par son métier. Du ski, de l'alpinisme, de son parcours à ses rencontres, il nous invite au cœur de son univers.
Je m'appelle Alain Ledoux, je suis guide, j'ai 14 ans et demi. Non, j'ai 62 ans, mais c'est pareil. J'enseigne le ski aussi, je suis moniteur de ski. C'est un rêve de gosse en fait. Dès que je suis tout petit, 6-7 ans, j'ai eu la chance d'aller une fois au ski et il n'y a plus que ça qui comptait. On était à Paris, quand le métro arrivait Gare de Lyon, je tirais la manche de maman, je dis « Regarde là, c'est là qu'on part, qu'on prend le train pour partir à la montagne ». Bien sûr, on descendait pas du métro, on allait plus loin. Et papa avait une 404 à l'époque, une voiture Peugeot. Et la 404, moi, on était trois ou quatre à l'arrière à un moment donné. Je m'étais mis au milieu et je mettais les pieds d'un côté et de l'autre et je faisais les virages du ski avec mes pieds dans la voiture, quoi. Et donc, j'étais fada de ça. Et après, il y a eu l'école, il y avait un tas de choses. C'était bien, c'était intéressant jusqu'à un certain point, même un peu de faculté, tout ça après. Mais c'était du temps perdu. Moi, l'école, c'était OK. Je rentrais le soir. Ils nous ont dit quoi aujourd'hui? On a appris ça, ça, ça. Mais ils disaient en 5 minutes et puis on retournait jouer, quoi. C'était pas la peine de passer toute la journée pour ces 3 trucs. Donc je l'ai vécu comme ça. J'étais loin d'être pas surdoué de quoi que ce soit. Mais je trouve que c'était une perte de temps. L'école, c'était une espèce de parenthèse où fallait être sage, fallait faire comme ci, fallait faire comme ça. Les moments de respiration, c'était le week-end. On allait en forêt de Fontainebleau. Grandissant, petit à petit, moi je trouvais absurde de vivre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en faisant tout sauf vivre et puis qu'il fallait attendre 2 jours pour vivre. Et pareil pour l'année, il fallait passer tous les mois de l'année à faire je sais pas quoi pour ensuite que l'été, 2 mois, faire ce qu'on avait le droit de faire. J'ai tout de suite fait un choix de dire la vie est trop courte et ma qualité de vie c'est quoi? Si j'essaye pas maintenant, à 70, 80 ans, je vais regretter, mais c'était impossible. Partir vivre à Paris, moi, un petit mec, aller à la montagne, c'était un rêve, mais c'était impossible. Donc, j'en parlais même pas. Jusqu'au moment où j'étais dans le nord de la France, on habitait à Cambrai, et on allait grimper sur des murs de briques, avant les murs d'escalade, on grimpait sur les murs de la citadelle, on se faisait courser par les gardiens du parc municipal. J'emmenais les copains avec des cordes et tout, mais ça devait pas être permis de faire ça. Et les copains, ils ont fini par m'appeler Tibétain. Voilà. Parce que je pensais qu'à ça, il y avait que ça qui comptait pour moi. Ça, c'était 13, 14 ans, voilà. Et puis ensuite, un peu d'études à Paris, 2 années de fac, des cours super intéressants, mais pour faire quoi? J'ai eu la chance de faire une préparation à l'école de Sciences Po au concours de Paris, 2 étés de suite, et j'ai eu la chance de pas être pris, parce que sinon j'y serais peut-être allé. Voilà. Ensuite, c'était toujours impossible, et j'ai eu une période un peu où je bouffais du noir. Bon, j'allais grimper à Fontainebleau, j'étais pratiquement la dernière année fourré tous les jours à la forêt pour grimper. Ne sachant pas quoi faire, sachant pas comment faire, j'allais tous les jours, je m'obligeais à aller courir. Il se passait des vraies choses. Il se passait de l'émotion, il se passait du contact avec la nature, il se passait faire quelque chose, il se passait aller quelque part, découvrir, il se passait, vivre, quoi. ce que pour moi la ville, je l'ai vécu comme une contrainte, comme bon, pourtant c'est mon univers, il y avait que ça, mais c'était juste un endroit pas agréable, c'était de la pollution, c'était du monde, des transports en commun, c'était des boutiques, on n'avait pas de sous, enfin voilà, c'était une espèce de non-objet. Très tôt, vers 8, 9, 10 ans, je me disais que je voudrais bien vivre à la montagne, c'était pour vivre ailleurs que là, pas dans cette ville. Mais je me le disais à moi, mais j'en parlais pas à qui que ce soit, parce que comme c'était impossible, on m'aurait pris pour une quiche, quoi, pour un fou. Donc voilà, c'était une petite bulle de rêve qui était là, mais qui a fini par être tellement présente qu'il fallait faire le pas, d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, j'ai changé de vie très tôt. Ma première saison au ski, il y a eu le service militaire, donc j'ai eu la chance d'aller à Briançon chez les gendarmes. C'était pas forcément une chance, mais c'était pas l'armée, les militaires en vert, kaki, à 300 sur la montagne, à prendre des pierres sur la tête. Et puis l'été, pendant les vacances scolaires, sur cette année-là, on était en colonie de vacances, détachée dans les Alpes du Sud, dans le Mercantour, à Rhin-Place, où les gendarmes ont une colonie de vacances. Et là, n'étant avec aucun diplôme civil, je me suis retrouvé avec 20 ados, des animateurs, et faire le programme escalade et randonnée pour un groupe d'ados. Et ça, c'était formateur, et c'est ce que j'appelle les déclics de confiance. Les déclics de confiance, ils viennent petit à petit. On faisait de la montagne, et papa, qui grimpait, nous avait dit, faites pas n'importe quoi, je vous paye un stage à l'UCPA. Donc nous voilà partis 15 jours, à l'UCPA de Serre Chevalier, au chalet du Bèze. Donc on était 8 ou 10 stagiaires, avec le guide et l'adjoint. Et ils ont fait leur course. Mais moi, ils m'avaient pris à part avec un des stagiaires. Moi, j'étais stagiaire client et avec un autre. Et ils m'ont montré la montagne en face. Et bien, vous tous les deux, vous allez faire la montagne d'en face. Et actuellement, je pense qu'aucun guide ne prendrait sur lui d'envoyer des clients mineurs, stagiaires, clients, faire la montagne là où il n'est pas lui-même pour les surveiller. Voilà. Et on est revenu. Ça s'est bien passé. On a débriefé. Et quelque part, vous débrouillez bien. Allez faire ça. Donc, des déclics de confiance. Des choses qui, ces déclics de possible, ils rendent, voilà, ça ouvre des petites portes. Mais j'y pensais toujours parce que c'était toujours impossible. Pour moi, être guide, c'était juste pas pensable. Dans la mesure où il y a l'image importante du guide, du métier de guide. Et moi, je pensais même pas être assez costaud ni capable de faire ça. Il y a les fameuses cotations. On disait assez difficile, peu difficile, assez difficile, difficile, très difficile, extrêmement difficile. Mais nous, on faisait du assez difficile. Et puis, quand c'était difficile, on n'osait pas parce qu'on dit, difficile, c'est dur. Donc, pour faire du dur, faut être fort. Et nous, on n'est pas fort. Donc, on a fait un paquet de courses en deçà de peut-être nos capacités qui sont venues progressivement. Mais, et peut-être que ça nous a sauvé la vie parce qu'en fait, on s'est mis en situation où on arrivait à gérer. Ça s'est bien passé. Et après, on fait ces déclics de démystification se font et on s'aperçoit qu'on peut aller dans une plus de difficultés. Donc, au départ, on était trop modeste peut-être et trop prudent, mais ça nous a peut-être gardé en vie. Voilà. Et ensuite, le gros déclic pour faire ma première vraiment saison, j'ai un copain qui m'a pris les cours avec un carbone. À l'époque, il n'y avait pas toute l'électronique et les ordinateurs. Et il était gentil, ce copain. Il m'a pris des piles de papier carbone et de feuilles. Et puis, c'était donc au mois de décembre, je suis parti 2 semaines. Et c'était Argentière à Chamonix. Et l'UCPA, sur 135 candidats, en gardait une trentaine pour prendre en formation des élèves moniteurs de ski. Et finalement, j'ai été pris là. Et j'ai fait ma première saison de ski à Monnetier-les-Bains, près de Serre Chevalier. Ça devait être 80 ou 81, un truc comme ça. Et là, c'était fantastique parce que c'était une saison enfin dans l'hiver, une saison enfin... C'était avoir une existence en dehors de Paris, en dehors du rythme de tout le monde. Et après, ça s'est enchaîné. Bon, première saison, j'ai eu la chance tout de suite de passer un examen technique que j'ai réussi. Et il y avait peu de reçus. Il y avait des sessions. Il y avait 6 ou 8 reçus sur 130 candidats. Faut pas penser que, quand j'entends Guillaume, il me dit, les enfants, ils disent, oui, vous, c'était facile. Ouais, c'est sûr. les 30 glorieuses. Oui, moi, j'ai pas vécu des glorieuses. Hein. On a vécu des années où on se bagarrait pour faire ce qu'on pensait vouloir faire. Et peut-être que de vue de maintenant, on trouve que c'est une fois que c'est fait, tout est facile. Hein. C'est comme une avalanche. On ne sait pas quand elle tombe, mais une fois qu'elle est tombée, tout le monde sait qu'elle devait tomber. Ah bon, pas comme par hasard. Et cette saison-là, c'était du ski, c'était progresser, c'était apprendre à enseigner, aller à la montagne, découvrir la rando à ski, acheter mes premiers skis, des skis d'occasion pour aller en randonnée, des skis slalom, encore 2,3 mètres, trop grand pour moi, mais c'était comme ça. Et puis commencer à faire des couloirs à ski, tout doucement, progressivement. Un jour, j'ai un copain qui m'a appelé, qui m'a dit « Pour ce boulot, j'ai besoin de toi. » Je dis « Comment ça ?»« Parce que je sais que tu as assez peur pour faire attention. » Donc, je l'ai pris comme un compliment. Mais en fait, peur, ça existe et ça n'existe pas. Parce que sur l'instant, elle n'aide pas cette peur, souvent. Il m'est arrivé d'être dans une situation difficile, compliquée. Il n'y a pas de place pour ça parce qu'on n'a pas le temps et puis ça aide pas. Moi, j'ai peur parfois. Oui, a posteriori, on se dit, bah oui, là, j'ai mal fait ou j'ai eu peur pour les autres. Un jour, je fais un virage de trop sur une pente trop chaude, une boulette de neige part et ça, comme certains jours, ça crayonne toute la pente et il y avait une piste ouverte dessous et ça aurait pu potentiellement couvrir 20 personnes. Par miracle, cette boule de neige qui avait déjà emmené un paquet de neige s'est arrêtée sur un deuxième petit replat sans que la moindre boulette repasse de l'autre côté sur la suite de la pente. Et là, ça aurait été une cata. Là, j'ai eu vraiment peur. Voilà, la montagne m'a appris à avoir un œil sur moi-même, je dirais. On peut avoir un œil sur le monde, mais un œil sur soi aussi. Ben, c'est au niveau de la lucidité, voilà. C'est au niveau de la conscience. On parle maintenant de faire les choses en conscience. Ben voilà, faire les choses en conscience, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que là, entre les oreilles, il y a du fromage blanc ou est-ce que je fais une intention réfléchie? Dans la vie, je trouve qu'il y a des gens qui font un geste automatique. Par exemple, ils sont dans la cuisine, ils ferment le frigo et ils vont faire autre chose. Sauf que le frigo, il y a un bocal qu'ils ont mis juste avant qui était pas là et ça fait le même bruit que d'habitude, poc, mais ça n'a pas fait le frigo. Et je vais revenir, mon congélateur va rester une semaine, je suis parti une semaine, il va rester une semaine à pas bien marcher ou à produire du froid pour rien. Il n'était pas fermé, mais j'ai fait le geste automatique sans m'assurer du résultat. Et du coup, mon idée de lucidité sur soi-même, de se mettre un pilote dans l'avion, ben voilà. En montagne, c'est important, mais dans la vie courante aussi. Et en montagne, ben, moi, ce que je fais en montagne, j'essaye de faire que rien de mes actions ne soit fait au hasard. Alors, c'est pas simple. Je dis pas que c'est une prise de tête, parce que ça devient une logique naturelle de quoi à quoi on fait attention, à quoi on pense. Mais je fais une trace, je suis un chemin. Bon, c'est dans la neige, il y a une trace dans la poudreuse. Je pourrais la suivre parce que c'est plus facile à marcher. Je peux regarder, je peux dire, ben non, là, pourquoi? Lui, il est passé là, pourquoi? Mais il y a un truc qui me plaît pas, il y a une corniche au-dessus. Eh ben, je peux très bien faire ma trace 100 mètres plus loin, éviter cette corniche, chute possible de corniche, et revenir sur la trace plus loin, j'aurais fait un détour. Lui, ben, il a fait comme ça, il a pensé, pas pensé, mais moi, en tout cas, j'ai le choix. Donc, est-ce que je vais suivre cette trace sans me poser de questions, ou est-ce que je me dis, ben attends, là, j'ai un choix, je peux prendre, puisque j'ai le choix, de l'option la moins dangereuse, ça va être un peu plus de temps, je suis pas à 5 minutes près, c'est pas grave. Comment arriver à percevoir du milieu, moi c'est ma logique de maintenant, les éléments, le vent, la température de la neige, l'ensoleillement, le brouillard, les gens de mon groupe, leur état émotionnel, leur niveau technique, comment ils sont. Et c'est ça qui va faire que ben les évidences vont se faire. Je voulais faire tel itinéraire, mais il y a un mètre de poudreuse. Ben non, je vais en faire un autre, c'est évident. Et les évidences se font, mais à moi de les décoder le plus tôt possible et puis de sortir de cette espèce d'équation multifactorielle avec 500 variables, de faire quelque chose qui va être ma journée de ski ou de montagne. Première saison de ski, donc à Monnetier-les-Bains, et j'ai rencontré un bon copain, Patrick Girard, que je salue. Façon de parler, on a pris notre sous, on a mis l'argent dans une boîte à gâteaux et puis on est parti. On est parti grimper. Et alors, on avait travaillé 4 mois à un petit SMIG. On s'est dit, bon, nous, de toute façon, on veut pas travailler. Donc, on part ensemble. Donc, nos dépenses, c'était de l'essence. Et c'était du saucisson, du Nutella, un peu de matériel. Et puis, on allait grimper dans les falaises. Alors, on est parti dans le sud, en Provence. On était grimpé. Alors, on a fait l'été. Après, en montagne, Vanoise, Mercantour, Oisans. J'ai fait plusieurs années comme ça. Une année, j'étais rentré à la maison très fièrement de mon papa. Lui dire, tu sais, papa, j'ai fait le calcul. Cette année, j'ai travaillé 5 minutes par jour. Ah! Le choc, gloups! Et mon papa chéri, il m'a regardé. C'était presque grave. Comment, m'a-t-il dit? Mais ça fait des générations que chacun essaye de faire mieux que ceux d'avant, qu'on essaye de s'en sortir, de s'éduquer, de progresser, de, comment veux-tu qu'il y ait un progrès humain si on va en marche arrière quelque part? Quand je suis parti de la maison, et puis, oh, merci mes parents, on s'est pas fâché, mais ils ont bien vu que j'étais heureux à faire ça et il y avait rien d'écrit à l'avance, c'était pas simple, ça aurait pu ne pas marcher, j'aurais pu tomber dans la première crevasse venue, et c'était réglé, on n'en parlait plus. Mais il se trouve que, ben, ils ont vu que j'étais content, ils m'ont pas aidé, j'ai rien demandé, parce que la première saison, j'ai gagné un peu d'argent, on a parti grimper, après, je passais à la maison aux intersaisons, les voir, et puis, en fait, étant parent maintenant, moi, je me dirais que, il faut aider ou faut pas aider? Il faut aider un peu, pas beaucoup. Et on aidera quand ça sera dur, quand il faudra, mais il faut bien qu'ils se débrouillent tout seuls. Et l'équilibre, il est pas facile à trouver. Voilà. Et moi, je remercie mes parents de m'avoir pas trop aidé et aidé par la suite différemment quand ils ont pu. Et on peut pas faire la vie des gens pour eux. C'est comme nous en montagne pour un guide. On a des clients montent au Mont Blanc, par exemple. Je peux les aider. Je peux leur donner des gants plus chauds, je peux leur vider leur sac à dos, je peux leur donner un anorak plus chaud aussi, je peux leur mettre des chaufferettes, je peux. Mais au bout du compte, c'est eux qui vont monter là-haut. Ça m'est arrivé une fois, je les ai aidés au-delà de la normale. Il faisait très froid, il faisait moins 28 au refuge du Goûter. On est monté au Mont Blanc le matin, il faisait donc un moins, avec 65 km/h de vent du nord. Donc on est température ressentie moins 55 ou en dessous. Et on est, les clients avaient chaud. Grâce au petit matériel que je leur ai prêté, les chaufferettes, les cagoules de soie, tout s'est bien passé. Je leur demandais toutes les 5 minutes si ça allait. Mais c'est moi qui n'ai pas été. Moi, je me suis gelé les pieds au retour. Et eux, ils ont fait leur Mont Blanc. Je leur en veux pas. Hein. C'était ma faute. Mais si j'avais pas donné des cagoules de soie, des surgants, des chaufferettes, ou des masques pour protéger, parce qu'on, eh ben, on aurait fait demi-tour beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est ce qu'il aurait fallu faire, parce que ce jour-là, il y a eu 5 gelures à l'hôpital, dont des amputations, et dont mes pieds, qui finalement s'en sont très bien sortis. Merci, docteur Cochet. Voilà. Donc, 80-81, première saison, 4 saisons de ski, avant d'être diplômé ski, 84 diplômes de ski. J'ai passé l'accompagnateur en moyenne montagne, parce qu'il fallait à l'époque passer l'accompagnateur. À Briançon, il y avait le CRET, qui était le centre régional d'enseignement touristique, qui faisait des stages de formation professionnelle dans l'hôtellerie, et également moniteur de ski pour les métiers de montagne. Il y avait une sélection pour être pris au CRET, et c'était une formation de longue durée. Et cette formation, il y avait des périodes de cours, et après, on avait des périodes pour aller faire nos courses à nous, et on se retrouvait une période pour faire de la glace à Chamonix, ou faire des courses ensemble, en Oisans. Et ça a été hyper formateur, mais moi, c'était déjà impensable d'être admis là, parce que j'étais avec des gars du milieu de l'Oisans. Alors, la première année, c'était drôle parce que on a fait le stage. Moi, je me débrouillais pas mal. J'étais pas le plus fort en rocher, loin de là, mais voilà. Et on passe l'examen. Ils sont tous reçus, sauf moi. Alors, c'était pas grave. Je me dis, vous en faites pas. Ils étaient tous désolés pour moi. Ils sont venus me voir bien gentiment. Et Denis Pinatel, à l'époque, s'occupait du CRET, avait dit, bon, je vous paye le champagne. Et puis finalement, ben, je dis, si vous l'avez tous. Mais il avait pas pris de risque, mais bon, on aurait pu tous l'avoir. Un demi-point. Voilà. Et moi, finalement, j'ai passé 2-3 fois à pas l'avoir, je sais plus combien, j'ose pas dire 4, mais je sais plus. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'été, du coup, je me suis mis à travailler pour le CPA en adjoint d'alpinisme. Et finalement, j'ai appris le métier avant de l'avoir. Donc finalement, je me suis retrouvé en 89 avec ce diplôme de guide. J'étais avec mon copain Patrick. Et je lui ai dit, quand l'affichage est sorti, je suis resté dans la pelouse, assis devant l'ENSA. Je lui ai dit, je vais pas voir, moi, tu vas me le dire. Et je me suis dit que si je l'avais pas, ben je repartais à l'usine ou je sais pas ce que j'allais faire, voilà. Et j'ai fini le guide en 89, voilà. Donc en fait, si je suis parti ma première saison de ski en 80-81, j'ai mis presque 10 ans à faire ce parcours. 10 ans de parcours pour se dire, ben c'est bon, je suis dans le coup, j'ai gagné mon ticket pour vivre de ce que j'aimais, voilà. Donc ça fait 45 ans que j'ai quelqu'un sur ma corde. Voilà. Ça change et ça change pas. La montagne est toujours là, là, la même chose, le gel, le dégel, l'orage, pas l'orage, la bonne neige, partir à l'heure, partir assez tôt. Ce qui change, c'est le monde. Par exemple, on allait en Oisans faire des couloirs, et ben, on remontait ce glacier noir, et puis si on voyait des frontales quelque part, et ben, on faisait autre chose, si on pouvait, on essayait d'avoir un plan B. Tandis que maintenant, ici, ils font des goulottes et des couloirs, ben, il y a 5 cordées au-dessus de la tête, et ben, ils y vont quand même, ils trouvent ça normal. Et ils se font bombarder de morceaux de glace toute la journée, parce qu'il y a du monde au-dessus, mais ils trouvent ça normal. Ce qui a changé dans la pratique, ben, c'est de passer d'amateur à professionnel. Ça veut pas dire qu'on aime plus ce qu'on fait. C'est un débat récurrent, un petit peu, ça. Et puis, devenir guide, ben, c'est faire tout pour les autres. C'est donner ses moufles quand il fait froid, c'est porter le sac, c'est aider pour ci, aider pour ça. Donc, on est carrément sur un schéma différent, sur une attitude mentale différente. Tant qu'on met ses chaussures le matin, qu'on part, qu'on a froid aux doigts et qu'on va sur les chemins et qu'on a quelqu'un au bout de sa corde et qu'on rentre fatigué le soir, on gagne son existence. J'ai rapidement été passionné par l'enseignement du ski. Dès que ça glisse, c'est magique. On s'affranchit des distances, du temps. La gravité joue avec nous et pas contre nous. En escalade, il faut grimper. À ski, ça, c'est tout facile. C'est même pas, tellement c'est facile, c'est même pas un sport presque. Je suis un écorché de l'enseignement du ski, ou dans le sens où les conseils classiques qu'on entend, pour beaucoup de gens, faire un virage à ski, c'est faire quelque chose. Il faut tourner, donc qu'est-ce que je fais pour tourner? C'est une bonne question. En fait, on s'aperçoit que bon, le matériel a évolué et aide certainement, mais le ski, c'est une machine à tourner. Il suffit d'être bien équilibré dessus et il va nous emmener dans la courbe. Donc, on peut apprendre aux gens à tourner avec des centres d'attention différents. Non pas de l'effort, mais du relâchement, de la respiration. Comment se centrer juste? Donner des références kinesthésiques pour être centré sur un ski. Qu'est-ce que ça veut dire d'être bien placé sur un ski? On a découvert par nous-mêmes une approche du ski, donc avec cet aspect respiration, par exemple, et du relâchement proche du yoga, qui est mise en parallèle avec certaines choses. Je prends un skieur. Je vais pas insister sur ses défauts, mais pour moi, il n'y a pas de défaut. Je vais redéfinir avec lui de façon ressentie. Qu'est-ce que veut dire être placé sur un ski? Que veut dire respirer? Comment? Des choses simples, avec des images de la vie courante. Où je peux skier, je disais, en apportant un plateau de thé à quelqu'un. Voilà. Donc, je me mets légèrement en avant, je place ce plateau de thé posé sur une petite table basse près d'un lit de quelqu'un qui est malade. Eh ben, j'ai fait quoi? J'ai juste déverrouillé ma hanche et autorisé cette articulation du corps à fonctionner. Voilà. C'est pas un geste, c'est pas un mouvement sportif. C'est mettre, débloquer des fondamentaux, d'autoriser la personne à bien skier. Donc, on fait de l'attention sur, on met de l'attention sur les choses qui marchent vraiment. Donc, le ski, je vais le dire différemment, est un sport où il est facile de mettre de l'intention et des efforts sur des choses périphériques qui sont des détails, des gadgets. On peut dire, oui, ton carreau, que ta portière, tu vas conduire, mais en leçon de conduite, on peut dire, oui, mais t'as pas fermé le carreau. Oui, mais c'est pas grave. C'est l'embrayage, le moteur, les roues, c'est ça qui m'intéresse, le carreau. Bon, c'est un détail. Le détail, il est marrant, le détail, parce qu'il peut être anodin, superflu. Mais en fait, moi, je suis dans le détail parce que je viens sur le détail essentiel. Les gens disent parfois, oui, mais t'es pointilleux, parce que je veux qu'ils les amènent exactement sur la sensation. Ce que j'appelle un entonnoir sensoriel. Pile, c'est là que, voilà. C'est là que, on est sur la hanche, ça veut dire ça. On est sur le métatarse, ça veut dire ça. On veut se sentir relâché. Bon, un bateau à voile. Il est sur la mer, il a un mât et il y a des haubans pour tenir des câbles. Bon. C'est nécessaire. Mais chez le charpentier de marine, parce que la mer, elle bouge. Dans l'atelier, le bateau ne bouge pas. Le hangar, il n'y a pas de vent. Je mets une pièce de bois droite comme un i. Dans l'absolu, elle tiendrait debout. Pas besoin de câbles et de haubans pour la tenir. L'équilibre juste suffit à lui-même. Eh bien, à ski, c'est ça. Le but du jeu, c'est de donner aux gens une perception de leur point d'appui squelettique, du squelette, en quelque sorte, osseux, on va dire. Donc, le métatarse. Ensuite, la tête du fémur. Bien skier, ça serait mettre correspondance la tête du fémur sur le métatarse et se laisser emmener par le ski. Voilà. On n'est plus dans un geste à reproduire. Bien skier, ça serait si mes empilements osseux sont justes, si je suis bien placé sur ce schéma osseux que j'ai redéfini, eh ben, la bonne nouvelle, mes muscles ont plus besoin de me tenir, ils se relâchent. Donc je gagne en relâchement, je gagne en fatigue, enfin je gagne en économie d'énergie. Et je vais devenir un skieur, non pas qui doit faire ci, faire ça, fait comme ci, fait comme ça. Non, un skieur qui, en confiance, en étant juste attentif à ses points d'équilibre, se laisse emmener dans la courbe. Donc, c'est pas du tout la même approche. On n'est plus dans une « qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de plus ?» Non, on va être dans la simplification. À partir du moment où quelqu'un sait se tenir avec les fondamentaux redéfinis, se définir sur les skis, donc être sur le métatarse, être sur la tête de fémur, se relâcher, déverrouiller la hanche, et à ce moment-là, ben, on est dans un schéma de simplification et de faire attention à l'essentiel. Et on a nos quelques indicateurs d'auto-évaluation, ce qui fait que l'élève, au lieu de s'arrêter près de l'enseignant, du moniteur, de dire, c'était comment? Eh ben, non, on peut lui retourner la question et lui dire, voilà, tu me poses la question, mais tu as senti, t'avais ton indicateur, t'avais un feu rouge, un feu vert, voilà, ton plateau de tête, tu l'as renversé ou? Le skieur va devenir autonome dans sa progression. Et ben voilà, on est responsable maintenant dans la vie d'un tas de choses. On est responsable d'un parcours de soi, on est responsable de soi dans la vie. En fait, je reviens à l'école, qu'on a vu tout à l'heure dans l'école, on disait, tout ce qu'on apprend à l'école, vu de maintenant, je dirais, je suis méchant avec l'école, mais c'est, oh, il s'est passé quelque chose. C'est pas moi, madame, c'est pas moi qui ai fait. Dans la vie aussi, c'est pas moi. Non, j'ai pas vu le feu rouge, c'est pas moi, et ainsi de suite. Donc, la montagne, l'enseignement du ski, il y a un moment, voilà, je redisais, il faut un pilote dans l'avion. On est dans cette phase de, justement, le stage de ski que je propose, c'est mettre un pilote chez le skieur, voilà. Et skier en pleine conscience, avec certains indicateurs simples qui fait que, le ski devient simple. Finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un métier? Qu'est-ce qu'on attend d'une vie? Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je suis assez comblé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire ça? On veut toujours plus. Je suis assez content de tous les jours. Parce que, qu'est-ce que m'apporte mon métier? Ou ma pratique de la montagne, perso? Ça m'apporte une lucidité. Ça m'apporte une responsabilité. Pour moi ou pour les autres. Ça m'apporte une liberté de décision. C'est-à-dire que, je suis un homme debout. Voilà. Je fais pas juste ce qu'on me dit. Pour avoir ma gamelle ou mon salaire à la fin du mois. Voilà. Je suis un homme debout. Et je suis de travail dans l'humain. On a une raison technique qui est le ski, l'escalade. On a une raison d'être qui, comme le plombier, il vient pour la technique. Mais en fait, en montagne, on travaille dans l'humain. La solution, elle va être dans l'humain. Elle va être dans la compréhension des choses, dans l'état d'esprit. Et souvent, c'est ça qui va débloquer les difficultés techniques des gens. Et là, je dirais qu'on est aussi dans la confiance. La confiance, elle a plein d'aspects, la confiance. On parle souvent de gens qui ont besoin de construire leur confiance en eux pour faire leur parcours, pour exister, pour trouver leur voie. Et je fais partie de ces gens-là. Mais après, on passe à un autre stade. Il y a la confiance qu'on reçoit des autres. Et ça, elle est monumentale. quand quelqu'un, j'avais un client qui avait 24 000 employés. Bon, chaque être humain a son importance. Le client qui en a zéro, il est aussi important. Mais quand quelqu'un comme ça te donne sa confiance, lui, il était successful, il a réussi parce qu'il s'est entouré des bonnes personnes. Et quand cette personne t'emmène en montagne et te dit « emmène-moi là », eh ben ça a du poids. Et cette confiance, elle est dure à recevoir parce qu'il faut être à la hauteur et faut pas la trahir. Donc voilà, la conscience que les gens mettent en nous. Et puis il y a une autre confiance encore, c'est celle qu'on met dans les gens. Parce que à la montagne, celui qui grimpe, il est au bout de la corde. Donc je m'en fous, il peut ripper des galoches, je vais toujours le rattraper. Mais à ski, il est tout seul. Il est le pilote de son avion. Donc moi, il faut que j'ai construit le pilote de l'avion. Voilà. Et là, je lui fais confiance. Et il faut que je sache lui faire confiance. Et à la fois, mon métier, c'est de faire confiance sans faire confiance. C'est là que c'est ambigu, on va dire. Il faut laisser faire, mais il faut être présent au moment pour rattraper les morceaux pile quand il faudra. Donc voilà, la confiance est là. Et ce métier, dans l'humain, il t'apporte tout ça, c'est riche, quoi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Cet entretien a été proposé et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. La semaine prochaine, nous retrouverons Meij, gardienne du refuge de Prarion. De son amour pour la montagne à sa manière bien personnelle de garder son refuge, elle nous invitera au cœur de son univers. Si cet épisode vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.